Nathalie Arthaud, lundi 25 mai, réimplanter les idées internationalistes.
L'évolution même du capitalisme, sa mondialisation croissante, font que le brassage dont résulte le prolétariat se déroule aujourd'hui à une échelle encore plus grande qu'au temps de Marx ou de la Première Internationale. Le prolétariat d'aujourd'hui est composé, ici en France, comme aux États-Unis, en Angleterre ou dans les pays les plus industrialisés, d'hommes et de femmes venus de tous les continents. Des milliers de femmes et d'hommes sont chassés de leur lieu d'origine par la misère et la faim, ou par les guerres et des régimes d'oppression. Ces femmes et ces hommes qui, au prix d'efforts désespérés et si souvent mortels, essayent d'atteindre les pays plus développés où ils espèrent trouver du travail, sont l'illustration sans cesse renouvelée de cette expression du manifeste communiste « Les prolétaires n'ont pas de patrie ». C'est le capitalisme lui-même, les inégalités, les oppressions qu'il engendre sans cesse, qui font que les travailleurs n'ont pas, ne peuvent pas avoir d'autre patrie que là où ils travaillent. Oui, quand Marx écrivait « Les prolétaires n'ont pas de patrie », c'était déjà le constat d'une réalité. Elle est toujours d'actualité pour un nombre incomparablement plus grand de pauvres et d'opprimés. On ne peut qu'être révolté devant les images de ces femmes, ces enfants, ces hommes qui se noient en Méditerranée en tentant de fuir leur pays et devant ces trafiquants d'êtres humains qui font du profit sur le désespoir. Mais infiniment plus écœurante est l'organisation sociale qui conduit à cela, alors qu'elle regorge de richesses accaparées par une minorité de privilégiés. Les gouvernements peuvent surélever les murs, renforcer les barbelés, multiplier les patrouilles en mer et sur terre, ériger l'Europe en forteresse, ils n'arrêteront pas ces migrations. D'ailleurs, la bourgeoisie le veut-elle vraiment? Ces migrants, devenus des sans-papiers, lui fournissent une main-d'œuvre bon marché, aussi dépourvue de droits que l'était le prolétariat au début du capitalisme. Ainsi, la boucle est bouclée. La mainmise impérialiste qui appauvrit les pays sous-développés contraint leurs forces vives à partir pour devenir de la chair à exploiter dans les citadelles de l'impérialisme. Aussi inhumains que soient les moyens de ce trafic qui nourrit l'esclavage moderne, l'esclavage salarial, disons-nous bien que le système capitaliste est en train de fabriquer le prolétariat d'aujourd'hui et de demain. Et tous ceux qui présentent ce mouvement migratoire, ce brassage des hommes et des peuples comme une menace pour les travailleurs d'ici, sont nos pires ennemis. Le problème ne vient certainement pas de ces futurs prolétaires, mais du fait qu'il n'y a pas un mouvement ouvrier vivant capable d'accueillir ces nouveaux arrivants et de les associer dans les combats quotidiens. Le problème est qu'il n'y a pas de parti communiste révolutionnaire, qu'il n'y a pas d'international révolutionnaire pour les intégrer dans le combat de la classe ouvrière pour le renversement du pouvoir de la bourgeoisie. Ce que les guerres, les oppressions ou la pauvreté chassent de leur pays peuvent avoir été des paysans, voire des petits bourgeois. S'ils parviennent à pénétrer dans les citadelles impérialistes, ils seront pour la plupart transformés en prolétaires, nos futurs frères d'armes. Des frères d'armes avec qui nous aurons à mener nos combats pour nous défendre contre l'exploitation et avec qui, je l'espère, nous vaincrons la bourgeoisie pour mettre fin à la dictature du grand capital et à l'exploitation.
La barbarie des djihadistes et celle de l'impérialisme.
Personne ne peut rester insensible face aux attentats terroristes, aux décapitations, aux enlèvements et à la mise en esclavage des femmes, ou encore face aux actes d'épuration ethnique et religieuse commises par ces bandes armées du type Daesh ou Boko Haram. Mais la barbarie de ces bandes armées qui profitent de la décomposition de nombre d'États en Afrique ou au Moyen-Orient pour imposer leur dictature à leur peuple ne fait pas des puissances impérialistes et de leurs armées les défenseurs des opprimés. Comme Al-Qaïda, les milices en Libye et les bandes djihadistes de Daesh qui terrorisent une partie du Moyen-Orient sont les fruits directs ou indirects de la politique impérialiste, le fruit des frustrations, des sentiments d'injustice et de révolte semés par la domination des pays riches. La barbarie des terroristes et la barbarie imposée par la domination de la bourgeoisie, domination économique et militaire, sont les deux bouts d'un même bâton. L'une alimente l'autre, et pour combattre l'une, il faut combattre l'autre. Les troupes françaises mènent aujourd'hui la guerre au Mali et en Centrafrique et participent au bombardement en Irak. Elles préservent des positions pour intervenir dans d'autres pays d'Afrique où elles maintiennent des bases militaires. Les travailleurs n'ont certainement pas à soutenir la politique guerrière du gouvernement. Ils n'ont pas à se réjouir de la vente d'engins de destruction et de mort à des dictateurs qui s'en serviront contre leur propre peuple. Les travailleurs n'ont pas non plus à se joindre aux manifestations d'unanimité nationale, même lorsqu'elles ont pour prétexte la lutte contre le terrorisme, quelle que soit la cause qui sert de prétexte aux hommes politiques pour en appeler à l'unité nationale, c'est toujours pour mettre les classes populaires à la remorque de la grande bourgeoisie. La classe ouvrière n'est pas en situation aujourd'hui d'empêcher les guerres de brigandage que leurs dirigeants prétendent mener en son nom. Mais son intérêt politique est de les dénoncer. Nos exploiteurs ne deviennent pas nos amis lorsqu'ils envoient des troupes pour assurer le pillage de leurs ex-colonies. Alors, à bas les interventions françaises et troupes françaises hors d'Afrique.
Le capitalisme, c'est la guerre.
L'ancien bloc soviétique a seulement ouvert un champ supplémentaire aux manœuvres des grandes puissances impérialistes, parfois en accord entre elles, parfois en rivalité. Une illustration sanglante en est donnée par la guerre qui se déroule en Ukraine. Car derrière l'affrontement entre la Russie et l'Ukraine par bande de nervis interposés, il y a les manœuvres politiques des puissances impérialistes occidentales. Les deux camps qui s'affrontent en Ukraine sont tous les deux des ennemis des classes exploitées. Ils sont en train de le montrer de façon sanglante. Mais le drame est que le prolétariat d'Ukraine n'a pas la force d'opposer sa propre politique aussi bien aux oligarques locaux qu'à la bureaucratie russe et aux puissances impérialistes. À quelques centaines de kilomètres de l'Ukraine, la Grèce offre la démonstration que l'intégration européenne ne constitue en rien une association entre peuples égaux. L'appartenance à l'Union européenne ne met pas fin aux relations de dépendance entre la partie orientale pauvre de l'Europe et les pays impérialistes de la partie occidentale. Le gouvernement de Tsipras, arrivé au pouvoir il y a quelques mois par la volonté de l'électorat populaire qui en avait assez de la politique d'austérité, est littéralement étranglé par les institutions de la bourgeoisie impérialiste. Le programme de Syriza n'était pourtant pas révolutionnaire. Il promettait d'améliorer un peu les conditions d'existence des catégories les plus pauvres de la population. Relever le salaire minimum, empêcher un certain nombre de licenciements découlant soit de la politique d'austérité elle-même, soit des privatisations. Il avait surtout l'ambition de s'opposer à ce que la Grèce soit considérée comme une semi-colonie par les banques occidentales qui l'ont ligotée avec la dette et par leurs représentants politiques. Mais même cette ambition modeste est inacceptable pour les puissances impérialistes qui dominent l'Europe. car il n'est pas question pour les institutions internationales de la bourgeoisie, du FMI à la Banque Centrale Européenne, d'accepter de ne pas être payées par les classes exploitées qui pourtant n'y sont pour rien.
Qu'ils se méfient.
Eh bien, que la grande bourgeoisie se méfie. Les exploités grecs sont en train d'expérimenter dans la souffrance et demain peut-être dans la déception les limites de la voie électorale. Ce qui se passe en Grèce montre que même l'élection d'une équipe gouvernementale bien disposée à l'égard des travailleurs ne peut rien faire pour eux dans le cadre du système. Eh bien, c'est ainsi que les classes privilégiées finiront par convaincre les exploités qu'il n'y a pas d'autre voie pour eux que de briser le système. Alors, ce que j'ai à dire à tous les militants qui partagent notre perspective, c'est, dans cette période de recul, de ne pas perdre confiance en leurs idées, c'est-à-dire ne pas perdre confiance en la classe ouvrière et en sa capacité à renverser le pouvoir de la bourgeoisie. Ce que j'ai à leur dire, c'est de ne pas perdre leur boussole politique, ne pas perdre leur perspective révolutionnaire dans la recherche de quelques succès politiques à court terme. Les idées communistes révolutionnaires ne deviennent une force capable de transformer le monde que si les masses ouvrières s'en emparent. Mais pour que cela puisse se produire, il faut que ces idées, ce programme qui résulte des combats passés du prolétariat, de ses victoires et de ses échecs, ne soient pas abandonnés ni dilués dans des politiques réformistes. Les idées communistes révolutionnaires resteront minoritaires jusqu'au jour où de larges masses se tourneront vers elles. Alors, il faut de la ténacité, de la persévérance pour gagner aux idées communistes révolutionnaires des travailleurs, des jeunes, une nouvelle génération qui fera enfin triompher le combat séculaire que mène le monde du travail pour renverser un ordre capitaliste injuste, anachronique, pourrissant. C'est la seule voie pour sortir la société de son impasse actuelle et pour permettre à l'humanité de connaître un nouvel essor.